douter de tout. Du résultat, du deuxième tour, de demain, de l'apaisement et des chats de certains. De tout ce que vous pensiez connaître, de votre entourage, de votre pays, du monde qui va et qui vient. Vous aussi, vous ne savez plus rien. Ça fait un bon bout de temps que vous remettez tout en question. Ce que vous lisez sur les réseaux, ce que vous entendez à la télé ou à la radio, et même dans les journaux. Vous n'êtes pas un mouton, vous n'êtes plus un enfant. Vous vous méfiez des opinions, autant que des sachants. Mais vous ne contrôlez pas grand-chose pour autant. Hein. La pandémie, vous vous souvenez, ça vous a mis dans un drôle de présent, dans une sorte de grand questionnement. Qu'est-ce que je fais? Où je suis? Pendant combien de temps? Vous avez mis vos projets de côté, vous vous êtes malgré tout laissé porter tout le temps. Et aujourd'hui, au fond, vous savez toujours pas de quoi demain sera fait. Il y a cette expression notamment que tout le monde emploie et qui ironiquement contient le mot climat. Climat d'incertitude, à l'heure où se dessinent des catastrophes imminentes, écologiques, politiques, sociales. Vous aussi en ce moment vous doutez tout le temps, que vous soyez adulte ou adolescent, dans les vœux que vous formulez, dans l'avenir qu'on vous promet. Vous savez pas sur quel pied danser, vous doutez.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas fini de douter. Neuropsychiatre et écrivain, depuis 40 ans, il sonde les profondeurs de notre esprit et nous aide à mieux comprendre les forces qui nous animent et à renaître aussi de nos blessures. Son nouveau livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, vient de paraître. C'est une réflexion vraiment passionnante sur notre société et sur la difficulté qu'il y a à penser par soi-même dans un contexte plus insécurisant que jamais. Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous doutez beaucoup en ce moment, vous?
Je doute systématiquement et j'ai besoin de certitude pour gouverner ma vie. C'est-à-dire, je doute systématiquement, c'est le doute méthodique, c'est Descartes, je ne fais pas confiance, je remets en question, ça c'est la science, et puis il y a le doute, l'incertitude qui empêche d'avancer, plus rien n'est vrai, c'est le soupçon. Ça n'est pas le doute méthodique, c'est très différent.
Parce que dans quelle mesure la certitude pétrifie la pensée, pour reprendre l'une de vos expressions?
Parce que si on me donne, c'est la croyance. La croyance, vous devez croire, c'est une certain. Et dans ce cas, j'ai plus besoin de penser, puisqu'on me dit ce qu'il faut penser. Donc j'ai plus besoin. Alors que dans le doute méthodique, on me dit ça, je veux bien, mais je le mets à l'épreuve de la clinique, de la vie quotidienne. Ça, c'est le laboureur qui réfléchit comme ça.
Qui sont, Boris Cyrulnik, aujourd'hui, ce que vous appelez les mangeurs de vent?
Eh bien, c'est ceux qui gobent n'importe quel récit, sans le critiquer, sans le mettre en doute. Le mot doute est ambivalent, hein, parce qu'il y a le doute nécessaire et il y a le doute qui empêche d'avancer. Et actuellement, quand on n'a plus de certitude, on remet en question tout et on ne peut plus avancer. Alors que le doute méthodique permet d'avancer.
Apprendre à douter, accepter le doute comme partie intégrante de l'existence et ne pas en avoir peur, ça passe par quoi pour vous?
Ah ben, y a une érotisation du doute, hein, alors qu'il y a une tranquillisation de la certitude. Quand on dit où est la vérité, il suffit de répéter. George Orwell, 1984, vous vous rappelez, c'était la novlangue. Il suffit de répéter, on est côte à côte, on est heureux, il y a une sorte d'euphorie, puisqu'on est sécurisé, on dit les mêmes mots au même moment, et ces slogans arrêtent la pensée.
Ouais. Mais pourquoi je vous pose la question? Parce que sous prétexte de remise en question perpétuelle et de libre pensée, bah, l'exercice du doute peut aussi aboutir à certaines dérives. Selon une étude IFOP publiée dans le JDD il y a 3 semaines, plus d'un Français sur 3 déclare souscrire à une théorie du complot. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Ah ben le complot, c'est pas le doute, c'est la certitude. Je suis certain qu'on me trompe. Je soupçonne. C'est pas le doute, c'est le soupçon.
Vous parlez de délire logique, Boris Cyrulnik.
Oui, c'est ça. Délirer, ça veut dire déprivatif, lira, couper du... Lira, c'est le sillon sur le sol. Donc délirer, c'est couper la réalité sensible. Et ensuite, on peut, à partir d'un postulat, couper la réalité sensible, on peut construire un système cohérent et logique. Par exemple, j'ai été invité en Martinique il n'y a pas longtemps, on m'a montré les archives de Négrier, qui disait « il faut conserver l'esclavage, sinon le prix du sucre va augmenter ». C'est-à-dire que c'est vrai, C'est logique. Si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. Ça repose sur un postulat criminel, c'est que il faut réduire 20 millions d'hommes, du moins pour l'esclavage sud-américain. Il y a eu 22 millions d'hommes pour l'esclavage maghrébin, mais on n'en parle pas. Mais il faut réduire en esclavage pour que le prix du sucre n'augmente pas. Ça repose sur un postulat criminel absurde, et pourtant, il y a des conséquences logiques.
Dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous écrivez que le goût pour l'asservissement est une caractéristique du monde vivant. Page 87. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais comment voulez-vous vivre en société si on n'accepte pas de s'interdire certaines choses ? Je ne peux pas tout me permettre. Puisque vous existez, on est obligé de faire un tour de parole. Si je vous coupe la parole, il n'y aura pas d'émission. C'est-à-dire que, et pareil pour la société, on est obligé de renoncer à une part d'épanouissement de soi pour que les autres puissent s'épanouir. De même sur le plan sexuel, si je trouve qu'une femme est belle et désirable, je ne peux pas tout me permettre. Donc je suis obligé de m'amputer, de me restreindre, de me freiner, et ça me permet de faire de la société.
Est-ce que le goût pour l'asservissement est plus fort que le goût pour la liberté ? C'est ça la question qu'on se pose.
Mais oui, l'asservissement est tranquillisant. C'est pour ça que je propose l'expression de confortable servitude. C'est très tranquillisant, c'est même euphorisant. Alors que la liberté est angoissante. Dès l'instant où on pense par soi-même, on risque de se retrouver seul, et même on risque d'entrer en conflit avec les gens qu'on aime. Donc c'est un choix douloureux. Et beaucoup de gens, surtout dans les périodes troublées, beaucoup de gens choisissent la confortable servitude.
Oui, vous montrez que la servitude volontaire mène à une certitude volontaire.
Oui, je fais souvent, d'ailleurs beaucoup de gens font le lapsus entre servitude volontaire et certitude volontaire. Et c'est un bon lapsus qui dit la vérité, comme souvent les lapsus. Hein. Mais cette servitude volontaire est euphorisante. La preuve, c'est qu'on a tous appris à être sécurisés en se laissant prendre, en se laissant sous emprise. On est sécurisé, c'est maman qui décide. Quand maman est là, j'ai pas peur. Elle sait ce que je dois faire, elle sait ce que je dois penser. Mais quand on devient adulte, on échappe à notre mère. Même on échappe à notre mère beaucoup plus tôt. Il y a l'âge d'un an, au début de la troisième année, on a tous connu ça, hein. Avec nos enfants. On est pressé, viens, alors on habille l'enfant et hop, il file se cacher sous la table ou dans un placard. Pour lui, c'est une victoire d'autonomie. Il commence à penser par lui-même. Pour la mère, c'est « arrête un peu, tu vas me faire rater le train, je t'en veux ». Donc voilà, premier conflit de génération, ça commence à 3 ans.
Mais qu'est-ce qui favorise et qui accentue aujourd'hui cette tendance au sein d'un même groupe à penser la même chose ?
C'est le désir d'être sécurisé. C'est que si la démocratie, théoriquement, mène au débat. Et il y a des gens qui aiment le désaccord, qui aiment le débat. Mais souvent, quand le débat devient conflictuel, il devient désagréable. Et surtout quand on est dans l'incertitude, on cherche le sauveur, celui, celle, qui va nous dire où est la vérité. Et on se soumet avec délice, parce que elle sait, il sait ce qu'il faut faire. Ah, je me sens mieux. Sauf que le réel est ailleurs, c'est pour ça que j'emploie l'expression de délire logique.
Vous êtes, Boris Cyrulnik, un observateur attentif de l'actualité. Entre une élection présidentielle dont l'issue demeure incertaine et une guerre dont on est incapable de prédire les évolutions, en quoi est-ce que vous avez envie et besoin de croire ?
Ma seule religion, c'est celle du doute. C'est-à-dire que j'ai besoin, on me dit quelque chose, si c'est de la part de quelqu'un que j'aime, j'ai envie de le croire, mais comme je veux penser par moi-même, je discute, est-ce que tu es vraiment sûr de ça ? Est-ce qu'on ne peut pas poser la question autrement ? Donc cette petite liberté est un petit désagrément. Mais si on veut être ensemble, on chante ensemble, on scande ensemble, on récite ensemble, et qu'est-ce qu'on est bien, mais la vérité est ailleurs.
Vous savez qu'il y en a une qui doute tout le temps dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Boris, c'est évidemment la culture et son actualité qui nous fait douter également. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 18 avril ?
You're the girl with the deaf family ?
Yeah.
I just wanna tell you right now. Interesting. Something's got a hold on me.
Coda fait son cinéma, le remake américain de La famille Bélier, lauréat fin mars de 3 Oscars, dont celui du meilleur film, va avoir droit à sa sortie en salle française. Jusqu'à présent, le long-métrage réalisé par Sean Eder n'était visible en France que via la plateforme Apple TV. Mais grâce au distributeur Pathé, la comédie sera projetée pendant 48 heures, samedi et dimanche prochain, dans près de 120 cinémas hexagonaux.
Le rôle de l'écrivain, pour moi, c'est de nous aider à percevoir un peu mieux l'étrangeté de ce monde dans lequel nous vivons.
Dernier cri, l'écrivain, journaliste et nouvelliste français Jacques-André Bertrand est mort à l'âge de 75 ans, a annoncé hier son éditrice Betty Mialet. Misanthropie et fantaisie, il avait fait paraître près d'une trentaine d'ouvrages, dont Le Pas du Loup, récompensé par le prix de Flore en 1995, ou Brève Histoire des Choses, prix Alexandre Vialat en 2015. Jacques A. Bertrand, comme on l'appelait, restera aussi comme l'un des complices truculents, des papous dans la tête, l'émission culte, surréaliste, ludique de nos amis de France Culture.
De l'art,
De l'art,
j'adore.
Pour l'amour de l'art, après l'inauguration de la très pointue Fondation Luma, et en plus de ses incontournables rencontres photographiques estivales, la ville de Arles se dote aujourd'hui d'un nouvel écrin dédié à l'art contemporain. L'artiste sud-coréen Lee Ufan, exposé notamment à Versailles en 2014, y propose désormais sa propre fondation, un espace de 1400 m² installé sur les trois étages d'un hôtel particulier, aménagé par l'architecte japonais Tadao Ando. Au programme sculpture au rez-de-chaussée, peinture au premier, expo temporaire au second, que du bon. Et enfin, Amy pour la vie. En 2007, la chanteuse britannique Amy Winehouse livrait une performance légendaire lors de son passage au festival de Glastonbury dans le sud de l'Angleterre à l'occasion du 15e anniversaire de ce concert mythique et à la mémoire de la diva disparue en 2011. Universal Music a annoncé la sortie d'une version vinyle de l'intégralité du show portée par les classiques Rehab, Back to Black ou You Know I'm No Good. Livraison dans les bacs le 3 juin. Et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, invité de Boomerang ce matin, pour parler d'aujourd'hui. Et dans votre livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, vous abordez notamment la question du pouvoir des mots. C'est une question qui nous passionne dans cette émission. Que peuvent les mots, Boris ?
Ils peuvent beaucoup plus que les mots. C'est-à-dire que...
Comment ça ?
Les mots peuvent agir sur le cerveau. Sur le cerveau de celui qui écoute et sur le cerveau de celui qui parle. C'est pas une vue de l'esprit. Quand on parle, on voit maintenant avec les neurosciences que quand on parle, le lobe temporal gauche, qui est le socle de la parole, dégage beaucoup d'énergie. Et quand je vous parle, je modifie le fonctionnement de votre cerveau, c'est-à-dire que votre lobe temporal gauche va aussi dégager beaucoup d'énergie. De plus, on voit que la langue maternelle a sculpté une partie de notre zone cérébrale. Quand j'étais praticien, j'avais beaucoup de gens qui avaient eu une langue maternelle, puis qui avaient passé leur vie dans deux ou trois autres langues à cause du travail, à cause de la vie moderne. Et quand l'Alzheimer commencent, ils oublient les langues dans l'ordre inverse de l'apprentissage et c'est la langue maternelle qui tient le plus longtemps.
Mais que se passe-t-il, Boris Cyrulnik, lorsque la langue et les mots sont vidés de cette fonction que vous décrivez de mise en relation et qu'ils deviennent, pour vous citer, incantations magiques ?
Alors voilà, quand les mots ne servent plus à élaborer et sortir de labeur du travail, quand les mots ne servent plus à travailler, quand on récite tous ensemble les mêmes mots, ça arrête la pensée. Et on voit que le lobe temporal gauche ne fonctionne plus. On entend la zone des sons et surtout ça modifie le socle neurologique des émotions.
Vous pensez à quoi par exemple ?
Ah ben par exemple, quand on chante, c'est très agréable, on chante, mais c'est pas la zone du langage qui tient. Par exemple, dans les maladies d'Alzheimer, les gens ont oublié les mots et ils se rappellent la musique. C'est-à-dire que la musique agit sur le cerveau autour de la zone du langage. On voit que finalement, il y a une synchronisation des cerveaux et que la parole agit sur le cerveau.
Et vous réfléchissez aussi, et c'est passionnant, à l'emploi de certains mots que vous qualifiez d'abusifs. Apartheid au lieu d'injustice, collabo pendant la pandémie, pour parler de ceux ou celles qui appliquent les consignes sanitaires gouvernementales, ou encore l'utilisation de l'étoile de David par certains anti-vaccins. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces multiples détournements des mots et des symboles ?
Alors, les mots sont des organismes vivants. Ils naissent, quand on se rencontre, on parle, et puis ils dérivent. Et si on ne fait pas attention, ils finissent par se vider de leur sens. Dans ce cas-là, on dit des mots qui ne désignent plus rien du réel. On rejoint l'idée de délire logique. On est coupé de la réalité sensible. Par exemple, quand les antivax mettent, passent à l'intérieur d'une étoile de David pour suggérer que c'est l'analogue de la persécution des juifs d'Europe, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, c'est les mêmes mots, c'est le même symbole. C'est-à-dire que le symbole est vidé de son sens.
Pourquoi on fait ça ?
Je pense que c'est fatigant de penser. C'est-à-dire que c'est fatigant de faire du sport, c'est fatigant de faire l'amour. C'est-à-dire que les mots, quand on arrête de penser, ça permet d'engourdir la pensée.
Et puis c'est une façon aussi de légitimer sa propre violence, peut-être.
Alors ça, quand on se dit persécuté, par exemple, c'est une manière, en effet, de légitimer sa propre violence. Je suis en légitime défense. Oui. C'est lui qui a commencé. Moi, je ne fais que me défendre. Et si je l'agresse, si je suis violent, c'est pour me défendre.
Quelle est l'origine de cette violence, d'ailleurs ?
La vie. Je pense que la vie est violente. La vie nécessite la violence. Mais chez les animaux, la violence est contextuelle. C'est pour manger, c'est pour défendre un territoire, c'est pour accéder à une femelle, c'est pour protéger un petit. C'est-à-dire que le stimulus est contextuel. Alors que nous, êtres humains, on vit tellement dans le monde des représentations verbales qu'on peut très bien déclencher une émotion intense pour un mot qui ne désigne plus rien du réel.
Et que permet cette violence, Boris Cyrulnik, au fond, chez celui ou celle qui s'y adonne ? Qu'est-ce que ça nous apporte ?
Il y a une érotisation de la violence. Et puis la violence donne une sensation d'existence. Si vous ne croyez pas, allez voir un match de football. Où vous verrez, il y a autant de violence sur les gradins que plus de violence sur les gradins que sur le match. Il y a une érotisation de la violence, il y a une érotisation de la peur. Si vous ne croyez pas, allez dans une fête foraine et mettez-vous près des grands manèges où les gens ont peur. Vous allez entendre les cris de plaisir parce que les gens ont peur.
Fascinant. Vous écrivez la diffamation de masse et le cyber. Le harcèlement ridiculise la démocratie en détournant les mots du malheur pour s'offrir un plaisir inavouable. C'est une phrase que je trouve très forte parce qu'elle fait un lien en fait, effectivement, entre la violence et le plaisir. Quel plaisir, aussi inavouable soit-il, peut-il y avoir, Boris Cyrulnik, à être violent ?
Parce que on se sent vivre. Quand il n'y a pas d'événement, il y a une extinction psychique. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai été neurologue pendant 40 ans, et à l'époque où il n'y avait pas de limitation de vitesse, il y avait presque 3000 lobotomies tous les ans. Les gens tapaient le front contre le pare-brise, il y avait une bouillie de neurones et de sang, le sang se résorbait, il y avait un trou à la place, la voiture avait fait 3000 lobotomies par an. Et les gens devenaient complètement indifférents. Et qu'est-ce qu'ils disaient quand on essayait d'entrer en relation avec eux ? Ils disaient « Je regrette l'époque où je souffrais, au moins je me sentais vivant ». C'est-à-dire que dans la condition du vivant, on est obligé de se mettre à l'épreuve. Les animaux font ça, ils peuvent pas dormir tout le temps. De temps en temps, ils se mettent à la recherche d'une bagarre, d'une chasse.
Mais alors si le plaisir et la violence sont liés, un monde sans violence, est-ce que c'est au moins concevable ?
1984, George Orwell répond à votre question. Aldous Huxley, le meilleur des mondes, répond à votre question. C'est-à-dire que dès l'instant où la vie est une vie d'eau tiède, on ne se sent pas vivre. C'est pour ça qu'on est complice de la violence dont on souffre.
Alors c'est vraiment intéressant. Je vous pose la question parce que l'une des grandes questions que vous soulevez dans ce livre, c'est vraiment un prolongement de la pensée de Hannah Arendt sur la banalité du mal. Au fond, qu'est-ce qui pousse un individu à faire le mal ?
Alors Eichmann était convaincu qu'il faisait le bien.
Hannah Arendt travaillait sur le procès à Eichmann.
Voilà. Ouais. Hannah Arendt assiste au procès Eichmann à Jérusalem et elle provoque la haine parce qu'elle pense par elle-même et elle dit Eichmann a commis un monstre en tuant des centaines de milliers de personnes innocentes avec un stylo. Il écrivait transport, arrestation, gaz. Il faisait son travail, il était convaincu d'agir pour le bien des 1000 ans de bonheur promis par Hitler. Et Hannah Arendt dit, vous dites qu'il a commis un acte monstrueux, donc c'est un monstre. Et ce que je vois, moi, Hannah Arendt, c'est qu'il a commis un acte monstrueux et c'est un petit monsieur, un petit fonctionnaire qui ne dit jamais « je ». Quand le président du tribunal lui dit « Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, monsieur Eichmann ?» Il répond « Mon seul langage est un langage administratif. » désaffectée.
Alors je repose la question, qu'est-ce qui pousse un individu à faire le mal ?
Alors, les pervers n'ont pas l'impression de faire du mal. Hein. Quand ils violent une femme ou un enfant, ils sont centrés, il n'y a qu'un seul monde, c'est le leur. Donc ils n'ont pas l'impression de faire le mal. C'est pas grave ce que je fais, c'est un enfant, puis elle en a profité. On entend des raisonnements comme ça. Donc faire le mal, il y a les psychopathes, les gens très malheureux, éprouvent du plaisir à faire le mal parce qu'ils ont l'impression qu'il y a là une égalité. Je souffre énormément, mais en faisant du mal à celui, celle qui est nantie, je rétablis une sensation d'égalité. Donc je pense qu'il y a un petit plaisir de revanche. Mais faire le mal, je pense que la plupart du temps, les régimes totalitaires, quels qu'ils soient, commettent des crimes immenses au nom du bien, au nom de la morale.
Oui, on parlait de certitude tout à l'heure. Comment parvenir à définir avec certitude cette frontière qui existe entre le bien et le mal, pour autant qu'elle existe ?
Oh ben ça, j'en ai parlé avec un homme que j'admirais beaucoup, Tsvetan Todorov, hein, c'est que la tentation du bien est dangereuse. C'est parce que on est Hitler voulait apporter 1000 ans de bonheur. Les lendemains qui chantent ont aussi commis leur part de crimes immense. Et tous ces régimes totalitaires, toutes ces guerres, sauf la guerre d'Ukraine, je suis convaincu que Poutine l'a fait au nom du bien. Il est convaincu qu'il va redorer la Russie et que les Ukrainiens et que tout le monde va en profiter.
Alors faire le bien, ça ne veut rien dire, Boris Cyrulnik.
Si, ça veut dire l'empathie. Si on vit ensemble, je me décentre de moi pour me représenter votre monde mental, je communique avec vous, et là je ne peux plus tout me permettre, et j'ai envie que vous soyez bien. Et dans ce cas, c'est l'empathie qui me permet d'être bien en faisant le bien.
Alors que... Moi j'ai envie que vous soyez bien là ce matin, j'ai envie qu'on soit tous bien, et on va s'affranchir ensemble de toutes les servitudes avec vous, mais aussi avec Bob Dylan. I Shall Be Released en 1971, vous êtes sur France Inter avec Boris Cyrulnik. Nick, vous écoutez Boomerang, évidemment.
They say every man must need protection. They say every man must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released. In this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released.
France Inter, Boomerang. Augustin Trapenard.
Il a le sourire rédemption, vous savez, l'œil généreux et plein de douceur, derrière ses lunettes vénérables du sommet avec sa veste grise et sa chemise grise, ce matin. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, invité de Boomerang pour Le Laboureur et les Mangeurs de Vent, ce livre dans lequel vous revenez beaucoup sur votre expérience personnelle, celle de votre survie pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que vous avez échappé à la mort ?
Alors, de manière invraisemblable, c'est-à-dire que c'est un véritable roman picaresque où j'ai réussi à échapper. J'étais arrêté à 6 ans et demi parce que j'ai, comme enfant juif, mais c'est la première fois que j'entendais ce mot la nuit de mon arrestation. Et j'ai réussi à m'évader, mais pendant 40 ans, j'ai pas pu en parler parce que ou bien les gens ne me croyaient pas, ou bien ça posait un problème que les gens n'avaient pas envie d'affronter. Et maintenant, j'ai du mal à ne plus en parler.
Et vous en parlez, vous l'avez dit, hein, sous forme de roman picaresque, sous forme de récit.
Mais oui, c'est impossible d'en parler autrement. Et c'est-à-dire que quand je racontais les détails qui s'était passé, les gens éclataient de rire, vous avez bien entendu. Ça amusait les gens parce que ça leur paraissait, c'était hors de leur monde, donc c'était pas pensable. Donc ils ne me croyaient pas.
Dans quelle mesure ce récit, Boris Cyrulnik, vous a permis de vous construire en tant qu'individu ?
Un trauma fait partie de la construction de l'identité d'un individu. Je suis celui qui, celle qui a connu cette épreuve, l'est surmontée ou ne l'est pas surmontée, et le traumatisme constitue l'identité.
Alors il y a cette idée qui est passionnante, hein, que nos souvenirs n'ont au fond rien à voir avec le passé, mais tout à voir avec le présent et le futur.
Alors ça surprend beaucoup les gens. Je crois que la mémoire est intentionnelle, c'est-à-dire que on va chercher dans son passé les images et les mots qu'on agence pour en faire un récit qu'on va adresser à quelqu'un. Les souvenirs sont toujours dans l'intention, c'est-à-dire dans l'anticipation. Même quand on raconte son passé, c'est un travail d'anticipation de son passé.
Mais alors, il n'y a pas de vérité ?
Alors, il y a 1000 vérités. Il y a 1000 vérités. Parce que si vous êtes de bonne humeur, vous allez chercher dans votre passé les faits vrais qui permettent d'expliquer pourquoi vous êtes de bonne humeur. Mais si vous êtes malheureux, vous irez chercher dans votre passé d'autres faits tout aussi vrais qui expliquent pourquoi vous êtes malheureux.
Tout en doutant de sa propre mémoire.
Alors non, le pire c'est qu'on ne doute pas de sa mémoire, on croit que c'est la vérité.
Ouais.
Mais si on change, si on évolue, la mémoire saine, elle est évolutive. C'est le syndrome psychotraumatique qui n'évolue pas.
Boris Cyrulnik, comment expliquer qu'on oublie certaines choses et pas d'autres ?
On oublie presque tout. L'oubli caractérise la mémoire. Si on devait tout mettre en mémoire, on serait confus, on serait bombardé d'informations qu'on ne pourrait pas traiter. Donc l'oubli permet de structurer la mémoire.
Qu'est-ce que vous n'oublierez jamais ?
Alors je n'oublierai jamais mon enfance parce que je suis invité à en parler, grâce à vous. Et puis parce que quand je n'étais pas invité à en parler, j'y pensais sans cesse. Donc ça reste une trace.
Qu'est-ce qui fait qu'on y pense sans cesse ? Dans quelle mesure, par exemple, ce qui se passe actuellement en Ukraine réactive tout un pan de votre mémoire ?
Alors ça réveille des traces, non pas des souvenirs, ça réveille des traces dans ma mémoire que je croyais oubliées alors qu'elles sont simplement enfouies.
Vous dont le père était d'origine ukrainienne par ailleurs.
Ma famille paternelle était ukrainienne, ma famille maternelle polonaise, et quand j'entends les bruits de bombes, quand je vois les images d'Exode, quand ça réveille comme si ça venait d'arriver, des traces du passé. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre d'Ukraine, j'aurais peut-être fini ma vie sans réveiller ces traces. Donc les traces, c'est pas les souvenirs, c'est pas la même chose.
Boris Cyrulnik, Pourquoi la guerre ? C'est un texte que vous nous avez écrit ce matin, et j'aimerais bien que vous nous le lisiez.
En 1926, Freud rencontre Einstein à Berlin. Les deux hommes échangent des lettres que la Société des Nations publie en 1933, 15 jours avant que Hitler soit démocratiquement élu au poste de chancelier. Einstein pense que la guerre est due à un appétit de pouvoir, ce qui provoque une pulsion de haine. À quoi Freud répond qu'il s'agit plutôt d'une pulsion de mort d'origine organique. Konrad Lorenz, prix Nobel de la paix en 1973, constate que les animaux se bagarrent, mais ne font pas la guerre. Ils s'agressent pour un motif immédiat, pour manger, pour défendre un territoire, pour accéder à une femelle, pour défendre un petit. Les hommes, eux aussi, se bagarrent pour des causes contextuelles, mais en plus, ils se font la guerre pour un récit qui désigne des faits impossibles à percevoir, comme l'extension d'un territoire ou l'indignation pour un blasphème proféré il y a des millénaires. Une simple phrase suffit à légitimer l'État qui envoie son armée pour détruire le voisin ou le prêtre qui fait éliminer ceux qui ne croient pas comme il faut. Il y aurait donc deux sources d'une pulsion. Une pulsion organique, comme le propose Freud, et une origine verbale, un grand récit invérifiable, auquel certains croient tellement que ça illégitime la destruction d'un peuple avec un sentiment de victoire euphorisante. Il se trouve que les neurosciences confirment les deux sources. Les enfants insécurisés, parce qu'ils ont eu un développement vulnérabilisant, deviennent des adultes impulsifs qui ne peuvent pas ne pas se bagarrer. Ils explosent à la moindre émotion. Alors que d'autres, au contraire, sont façonnés par un contexte verbal qui les coupe de la réalité sensible, au point qu'ils trouvent moral de détruire sans aucune culpabilité ceux qui ne pensent pas comme eux. Depuis 300 000 ans, l'homme est soumis à ces deux pulsions opposées, issues soit d'un défaut de maturation organique, comme dans un milieu appauvri, soit à une folie résonante, comme un discours sans racine. La question n'est donc plus pourquoi la guerre, mais comment la paix ? En organisant le milieu qui éduque nos enfants et en empêchant les délires collectifs, pourrons-nous éviter la guerre ?
Boris Cyrulnik, si la guerre relève du délire, comment fait-on pour raisonner des fous, des êtres délirants, pour mettre fin à ce que vous appelez ce délire collectif ?
On ne raisonne pas. Je pense que Poutine n'est pas accessible au raisonnement. Hitler n'était pas accessible au raisonnement. C'est une tragédie qui évolue vers le fracas de l'un. Quand il y a une guerre, il s'agit de détruire l'un pour ne pas être détruit. Donc là, ce qui est embêtant, c'est que les pays occidentaux croient qu'on va raisonner Poutine en lui expliquant. Ça ne marchera pas.
Merci infiniment, Boris Cyrulnik. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Le Laboureur et Les Mangeurs de Vent est publié aux éditions Odile Jacob. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers et son Instant M qui nous parle de cuisine juste après ça.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, sont les commerces, les glucides et ma monnaie même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. De l'extérieur, rien ne vaut la vie, elle est splendide. Tant de sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide. Faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. L'extérieur.
Gaëtan Roussel et Alain Souchon, son sommeil. Il est 9h40 sur France Inter.